Voigny. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Thierry Marx. Ce soir, faire pour apprendre, la cuisine comme lien social. Bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Alors c'est donc ici dans ce fief ou la maison mère TM4 qui est 6 avenue de la République à Paris que nous nous retrouvons pour ce quatrième temps de notre série d'entretiens. Ce lieu, c'est vous le concevez comment? C'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'expérimentation?
C'est un lieu de travail, ça peut être un lieu de vie. C'est un atelier au fond de la cour, quoi. Je suis né au fond d'une cour, je crois que ça devait me manquer. Je suis né au fond de la cour de la rue du groupe Manoukian. Et j'ai trouvé cette opportunité de racheter cet atelier d'échelle, qui était avenue de la République. Et puis, on en fait un lieu de partage. Donc, beaucoup de livres, beaucoup de travail sur la cuisine.
Et un jardin potager.
Un jardin potager sur le toit. On reçoit nos clients et nos collaborateurs. On peut être hébergés ici. Parce qu'on a des collaborateurs à l'international et quand on a besoin de se voir, je préfère qu'ils soient un petit peu comme chez eux et de profiter de Paris dans de bonnes conditions. Donc on a eu l'opportunité de ce 11e arrondissement et c'est merveilleux.
Alors hier, Thierry Marx, on a parlé de votre passion pour la culture japonaise et des ponts que vous pouvez faire entre cette culture et votre façon d'envisager la cuisine. Cette cuisine d'auteur, vous la mettez en pratique notamment au sur-mesure, au sein de l'hôtel Mandarin Oriental à Paris, qui est donc le restaurant 2 étoiles au guide Michelin que vous dirigez. Et vous dirigez ces cuisines-là depuis 2012. Et je trouve que la même année, vous avez commencé à être juré dans l'émission culinaire phare de M6, Top Chef. Vous y êtes resté 5 saisons. Vous avez aussi présenté une émission sur 13e rue, Un chef en prison. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de vos engagements. Vous avez d'ailleurs souvent été présenté, vous l'êtes encore, comme un cuisinier engagé. Et la première question à propos de ces engagements va concerner justement la médiatisation. Mmh. Est-ce que cette médiatisation fait partie de vos engagements ou c'est un outil pour autre chose?
Alors, d'abord, les 5 années de Top Chef ont été 5 années merveilleuses de rencontres, de mise en lumière de talents qui étaient dans cette émission. 13e rue, passeport pour le crime et un chef en prison, eh bien, ça m'a permis d'aller au bout de certaines connaissances dont j'avais besoin pour travailler sur le secteur social et notamment sur le secteur
dans le milieu carcéral.
Voilà, pas plus. Ce qui m'a intéressé dans Top Chef, c'est que il y a quelques années en amont, j'avais commencé à créer des écoles d'insertion, mais elles n'avaient pas de visibilité. C'est très difficile de trouver des partenaires qui puissent nous aider économiquement. Top Chef, ça a été formidable parce que dès la première saison, j'ai bénéficié d'une mise en lumière médiatique et bien évidemment, mon premier revenu, je me souviens, ça devait être 20 ou 25 000 euros, enfin quelque chose comme ça. Je l'ai immédiatement, on a acheté le fourneau du 114 rue Millemontant et on a créé Cuisine Mode d'Emploi. On a fait un panneau pour les marques et c'était à peine installé, mais le ramp up, comme on dit en anglais, de Top Chef nous a permis de financer, de mettre en lumière nos actions sociales.
Et ça a été un tremplin, finalement.
Ça a été un tremplin, oui. Tremplin. Et puis, bon, il y a eu 5 saisons. Puis un jour, on vous dit, bon, voilà, on peut peut-être se quitter bons amis parce que il faut d'autres figures, d'autres personnages. Voilà, et très bien, ça s'est très bien passé. Mais M6 est resté fidèle à nos engagements parce que la fondation M6 a été très proche de nos actions en détention. Donc j'ai toujours de très bonnes relations avec M6.
Alors on va parler de vos actions en détention, mais puisque vous avez parlé vous-même des cuisines mode d'emploi, ces écoles de formation, bien, il faut en dire un mot quand même, ces écoles de formation, c'est de la formation gratuite déjà. À qui s'adressent-elles ces écoles?
Alors elles s'adressent à des publics qui sont éloignés de l'emploi, en reconversion, très éloignés de l'emploi, en précarité, ou des personnes qui potentiellement peuvent être sous main de justice. Elle s'adresse à ces publics-là. Gratuit, c'est pas vraiment vrai. Parce que pour nous, l'argent n'est pas une valeur. L'engagement est une valeur. Donc on peut la monnayer. Donc on demande à ces personnes qui sont éloignées de l'emploi ou très éloignées de l'emploi de ne pas nous amener de monnaie d'échange en euros ou en dollars ou en ce qu'on veut, c'est de nous amener de monnaie d'échange d'engagement. Donc rigueur, engagement, régularité, eh bien,
la méthode RER.
La méthode RER, il faut qu'il signe en bas de la feuille. Et puis rigueur, comme je l'ai évoqué souvent, c'est le projet. L'engagement, lâcher la main du passé. La régularité, pas d'absence, pas de retard. Sur ces 11 semaines de formation, si vous tenez cet engagement-là, ben c'est plus gratuit, c'est votre engagement qui a de la valeur. Et ça, ça met tout le monde en face de ses responsabilités. Et s'il y a du retard ou s'il y a une absence, un absentéisme trop important, eh bien on se quitte, bons amis, mais on se quitte.
Et cette semaine, c'est un bon temps pour
pouvoir
apprendre. En
semaine, c'est bien parce que en semaine, ça nous permet de voir les 80 gestes de base de ce métier. En gros, 90 recettes du patrimoine culinaire français qui sont 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes, 4 grandes cuissons des légumes et 5 desserts du patrimoine culinaire français. Et après, vous allez monter en compétences, en situation opérationnelle dans le monde de l'entreprise. Mais vous entrez dans le monde de l'entreprise à un premier statut salarié. Et donc ça, ça change pas mal de choses, mais ça fonctionne suffisamment. Et effectivement, comme je viens de l'évoquer, la montée en compétences se fera dans l'entreprise.
Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes formées à la sortie? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Les résultats sont encourageants. C'est 92% de retour à l'emploi certifié, que ce soit en cuisine ou en boulangerie. Et puis, ça a été 70 créations d'entreprises. Ça veut dire que ça a permis à des personnes de ne pas se croire assignées à un quartier, assignées à une extraction sociale, mais de se dire, ben, quand je m'engage, quand je crois en moi, quand je crois en mon projet, eh bien, il y a peu de chances pour qu'on m'arrête dans ma progression. Donc, c'est ce qu'on fait surtout comprendre à ces personnes qui signent à Cuisine Mode d'Emploi.
Et les 10-15% d'échecs?
Il y a 8% de personnes
qui s'est passé
qui ne tiennent pas. En général, ça se passe dans les premières semaines. Il manque la partie régularité ou la partie engagement, où nous, on a accepté d'entendre des choses qui n'étaient pas dans la vérité. Donc, il faut se le dire et c'est dès le départ. Alors, on a créé une section qui s'appelle une préparation à Cuisine Mode d'Emploi, qui permet à des personnes, qui, notamment pour des gens qui sont en situation de migrants statutaires, de pouvoir se préparer à la langue française pour intégrer nos écoles. Et ça, ça va faire en sorte d'améliorer encore nos scores d'intégration et de retour à l'emploi. Mais il faut comprendre pourquoi il y a des choses pour des personnes qui ne fonctionnent pas, et il faut essayer d'améliorer ça et de notre côté de l'améliorer. Mais là où nous tenons bon la rampe, c'est qu'à un moment donné, il faut regarder les faits en face. Les faits ne sont pas négociables. Quand vous manquez de régularité, quand vous ne regardez pas les choses clairement, il faut qu'on puisse se le dire. Et nous, notre vocation, c'est on a ce mantra comme ça, de se dire dur avec les faits, bienveillant avec les gens.
Est-ce que certains sont revenus, certains qui ne sont pas restés une première fois pour les raisons que vous donnez, ont retenté leur chance?
Bien sûr, on a des personnes...
Avec succès.
Bien sûr, il y a eu et de nombreux cas. D'ailleurs, je me souviens d'un jeune homme qui est venu, qui n'était pas encore passé en jugement. Et au moment du jugement, il a été incarcéré à l'audience. Et il a dit, j'ai adoré la formation, mais là, vous comprenez que la régularité ne sera pas là et l'absentéisme va être là. Donc, je repostulerai. Il a repostulé à la sortie de Fresnes. Et on l'a intégré, il a merveilleusement bien réussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait un bout de carrière qui est somme toute très intéressant. Non, et puis il y a des moments, mais il faut être capable de se le dire. Nous, on n'a pas voulu jouer la compassion. On n'a pas voulu être gentil. On s'est dit, gentil, ça ne sert pas à grand-chose. On va être vrai. On va se dire les choses, il n'y a pas besoin de s'agresser quand on se dit les choses. Il n'y a pas cette volonté d'être des donneurs de leçons. Mais dire, vous êtes prêt ou pas prêt? Parce que quand vous n'êtes pas vraiment prêt, il y a 450 demandes en moyenne par centre. Donc vous privez quelqu'un d'une formation qu'il aurait pu intégrer parce que vous avez pris sa place. Donc il faut se le dire gentiment, poliment, mais il faut se le dire dans la vérité.
C'est vous qui avez formé les formateurs?
C'est moi qui ai formé les formateurs et on essaye d'organiser des cycles de formation. Quand on fait de la formation professionnelle, quand on prend des personnes apprenties, c'est pas de chercher à mettre des personnes en conformité, c'est d'en faire des hommes libres. Libres et non assignés à un statut social ou à un quartier ou à une culture ou à une origine. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui à Cuisine Mode d'Emploi de maintenant d'aller dans l'essaimage parce qu'on a 9 centres bientôt maintenant qui sont ouverts et on va former en gros presque 600 personnes par an. Donc ça devient un moteur de formation extrêmement pertinent. Et en même temps, d'accepter la modernité et l'innovation dans la formation professionnelle. Pourquoi on a fait 11 semaines? C'est parce qu'on est capable de digitaliser un certain nombre de choses aujourd'hui. Quand vous dites à quelqu'un, on va apprendre le potage julienne d'Arblay, immédiatement, il prend son smartphone, il tape avec le bon orthographe la recette, il en a 40. Et immédiatement, l'élève vous dit, mais quelle recette fait-on ? On leur dit, bah, la recette, on s'en fiche un petit peu. C'est de savoir couper les légumes comme il faut pour faire ce potage Julien Darblay, le cuire correctement et le faire dans un temps extrêmement précis. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de lui dire. Ouais. Donc toute la partie recette, les 90 ou 95 recettes qu'on a besoin pour passer son CAP dans ce métier, eh bien, on les a contraints assez facilement parce que elles sont digitalisées. Et puis pour les personnes qui avaient une difficulté d'accès à la langue française, on n'a pas d'ordinateur, c'est-à-dire que tous les matins, les professeurs comme les élèves, ceux qui écrivent le mieux, on dit nous, des gens qui ont une accessibilité au français très facile, eh bien prennent le tableau et gèrent la recette, et comme ça, les autres se disent « Ah oui, tiens, l'écriture, c'est quand même pas mal, c'est pratique. » Et on a contraint tous les irritants de la formation pour donner que l'efficacité de la formation. Donc, faites-y bien que ces personnes qui arrivent en entreprise arrivent avec un potentiel confiance qui est fort, elles sont dans le faire pour apprendre et pas dans l'apprendre pour faire. Si j'assois ces personnes qui étaient bien souvent en difficulté scolaire dans une classe pendant 6 heures en essayant d'abord de leur apprendre le français alors qu'ils sont d'abord venus apprendre la cuisine, ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai inversé les choses, on est dans le faire pour apprendre.
Ce qui est important dans ce que vous dites et dans ce qu'on entend de ce que vous dites, Thierry Marx, c'est à quel point, malgré tout, la transmission, l'enseignement, est une dimension essentielle de votre travail. Et avant de créer les écoles cuisine mode d'emploi, vous avez été vous-même formateur, puisque vous êtes allé en milieu carcéral depuis 2002, je crois, pour intervenir et pour apprendre, peut-être transmettre un savoir-faire. Du coup, j'ai envie de vous demander comment on transmet un savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut transmettre quand on est devant un prisonnier dont on veut faire un homme libre peut-être, oui. Mais qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet ?
D'abord, on transmet la posture d'un homme positif. On se dit, ben moi je suis libre, pas libre parce que je suis pas derrière des barreaux, libre parce que j'ai un métier qui me permet de me mouvoir, d'avoir une mobilité, une liberté d'esprit et de fonctionnement.
Donc, vous voulez dire, on parle pas tout de suite cuisine.
On parle pas tout de suite cuisine, non, parce que ça a pas vraiment d'intérêt. Et puis, quand on se met à faire de la cuisine, bah, je choisis des thèmes. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais sur Poissy, on avait fait le filet de bœuf Wellington. Vous voyez, ça vous paraît absurde. Alors, apprendre la recette du filet de bœuf Wellington, c'est assez simple. Vous allez prendre un filet de bœuf. Vous allez faire une petite purée de champignons et vous allez entourer tout cela de pâte feuilletée. Mais vous dites, voilà, on le fait techniquement, on le goûte, on se dit, mais c'est bon, techniquement, on sait le refaire. Mais vous avez déclenché énormément de curiosité chez cette personne que vous avez en face de vous, qui finit par vous dire, mais pourquoi Wellington ? Ah ben, Wellington ou Waterloo, Wellington portait des bottes assez courtes, qu'on appelle les bottes Wellington d'ailleurs maintenant. Et vous mettez à parler de la bataille de Waterloo, vous mettez à parler de Bonaparte, vous mettez à parler de Talleyrand, vous parlez à intervenir de l'Empire. Vous voyez toutes ces possibilités cognitives qui vont permettre à cet homme ou cette femme de grandir par la connaissance, d'aller chercher par la curiosité à s'améliorer et à se nourrir d'une culture générale dont il va avoir besoin. Mais si vous commencez par lui dire qu'il manque de culture générale, qu'il n'est pas assez cultivé pour apprendre un métier, c'est complètement fou. Et c'est pour ça que j'aime le livre de Crawford, L'éloge du carburateur, qui montre que le faire
pour apprendre...
Qui est un sociologue extraordinaire, qui a abandonné à un moment donné son métier de sociologue pour revenir restaurer de vieilles motos. Et il explique que la capacité cognitive du travail manuel est extraordinaire. C'est-à-dire que, moi je vous ai parlé du filet de bœuf Wellington, je pourrais vous parler d'Escoffier, je pourrais vous parler de la pêche Melba d'Escoffier, de Nelly... Là on parle de la pêche Melba, on va finir par parler d'opéra, de Nelly Melba, de Lohengrin, etc.
Vous dites que c'est des cours de culture générale au fond que vous
leur
faites.
Oui, mais qui commencent par un travail manuel. Et moi cet enseignement que j'ai eu chez les compagnons d'Edouard Zuni, c'était ça, c'était d'avoir quelqu'un qui faisait naître le désir d'apprendre. Et ça, en détention, c'est important, à cuisine mode d'emploi, c'est important de faire naître le désir de se cultiver, parce que en 12 semaines, on n'aura pas suffisamment de temps pour divaguer comme ça dans la formation. Donc il faut faire naître le désir d'aller chercher de la connaissance.
Est-ce que ces expériences en prison, puis avec cuisine mode d'emploi, vous ont aidé dans votre propre travail de management avec vos équipes à vous ? Parce que c'était aussi important, cet engagement chez vous, c'est aussi une façon de diriger vos équipes. Oui, ça, je rappelle de peu près 800 personnes
oui,
aujourd'hui, 800
salariés. Ça a même complètement amélioré. D'abord, il faut savoir que les jeunes gens que nous recrutons aujourd'hui sont des gens très attachés à l'engagement social. L'ensemble de mes collaborateurs ont, pour la plupart, ont déjà une action sociale. Donc, ils m'aident beaucoup dans Cuisine Mode d'Emploi, dans l'intégration des personnes, mais ils ont aussi de leur côté une action sociale. Mais pour le management des équipes, oui, ça m'a servi. Ça m'a servi parce que d'abord, ça m'a appris à poser que deux questions pendant le recrutement. Parce qu'évidemment, les ressources humaines vérifient un certain nombre de données sur les CV. Moi, ça m'ennuie beaucoup parce que, bien souvent, ces CV sont meilleurs que le mien. Mais je leur pose deux questions. Un, pourquoi vous voulez travailler pour nous? Pourquoi vous voulez travailler avec moi? Première question. Donc, j'ai des fois une réponse assez Wikipédia, sans souci. Et la deuxième question est, vous voyez où dans 2 ans? Déterminer l'ambition de la personne et cette envie de progresser. Et moi, ça me permet de créer un lien de confiance avec la personne. Et deuxième chose, qui est un moteur important, qui est un mantra, comme je le disais tout à l'heure, et on se dit à chaque fois, dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Ça, je l'ai vraiment puisé quand j'ai rencontré Véronique Colucci au Resto du Cœur, quand j'ai rencontré Julien Lauprêtre au Secours Populaire. Ces gens disaient, mais regardons les faits en face. Je me souviens des mots de Julien Lauprêtre sur la misère, qu'il côtoyait régulièrement. Il disait, ben non, mais ça c'est les faits. Donc maintenant, quelle solution on trouve?
Cette action sociale que vous menez hein, à travers votre métier, vos formations, vos écoles et ces différents engagements, est-ce qu'elle est liée au fait que pour vous, la cuisine, c'est un lien social? C'est un moyen de réparer ce que vous appelez l'escalier social? C'est un moyen d'insérer les gens? C'est un moteur d'intégration spécifique, disons particulier?
Non, je dirais que la cuisine est un lien social de fait et qui nous permet une chose, c'est de révéler une ligne de confiance. Quand vous asseyez des gens pour manger entre eux, quand vous partagez un instant bonheur de cuisine, eh bien, il se passe quelque chose. On s'assoit, on est en paix, on est à bonne distance d'écoute. Et ça, je crois que ça fait toute la force du lien social de la cuisine. Et aujourd'hui, il faut le replacer au centre du débat pour qu'on comprenne que cette cuisine, c'est essentiel. J'ai l'air de dire ça de façon assez poétique, mais vous savez, quand vous parlez d'environnement, l'environnement, il est dans votre assiette. Votre impact social et environnemental, simplement en simple citoyen, vous pouvez déjà avoir un impact social et environnemental rien que dans la composition de votre assiette, même si vous êtes dans une posture sociale difficile. Donc ça, il faut l'enseigner très tôt.
Vous n'avez pas envie, Thierry Marx, d'aller dans les écoles? D'intervenir les écoles?
Alors,
de leur apprendre des choses de cet ordre-là?
On le fait de temps en temps, mais d'abord, on ne peut pas mettre trop de casseroles au feu. On a vraiment pas de temps pour ça. Mais on est prêt à encourager cela. Parce que pour moi, l'atelier cuisine, comme l'atelier travail manuel, doit retrouver sa place dès le cours préparatoire. Moi, je me souviens de ma mauvaise scolarité, des dégâts collatéraux que ça peut faire. Mais je me souviens, quand je suis rentré en apprentissage, j'avais beaucoup de mal à écrire « Joyeux anniversaire » et j'avais beaucoup de mal avec l'arithmétique, calculée de tête. Donc, tous les anciens qui étaient autour de moi savaient le faire. Donc, on me donnait, ma première mission de l'apprenti, c'était de faire une crème pâtissière. Tous les matins, j'avais 3 litres de crème pâtissière à faire. Et arrivé au printemps, on vendait moins de tartelettes, moins de choux garnis. Donc un jour, le chef est venu me voir en me disant, dis donc, tu vas diviser la recette par 3 aujourd'hui. Et il a lu dans mes yeux que diviser par 3, les 2 apprentis que nous étions autour du marbre de travail, on ne savait pas le faire. On ne savait pas faire une règle de 3, on avait oublié les 4 grandes opérations, les virgules, ça nous posait un problème. Eh bien, il a affiché l'étape de multiplication, très discrètement. Il a remontré comment on faisait une division, très discrètement. Et ça a été un moteur extrêmement fort. C'est pas comment j'apprends la division, comment j'apprends les 4 grandes opérations, c'est pourquoi je les apprends. Pourquoi ça devient un outil qui m'aide à grandir. Et c'est trop souvent le flou du comment on apprend plutôt que du pourquoi on apprend. Donc c'est important, ce travail manuel, très tôt à l'école, que ce soit autour de la cuisine, et comme on l'a évoqué, la cuisine est le meilleur moyen de connaître l'autre, sans agressivité. Et ça permet aussi à l'autre de s'intégrer beaucoup plus facilement.
C'est aussi pour ça, Thierry Marx, avec cette idée que la cuisine peut être un lien social au sens très très large du terme, que vous avez conçu des restaurants dans des gares et des aéroports. Il y en a Gare du Nord à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, à l'aéroport de Nice. C'est des lieux de convivialité, de rencontres possibles.
Oui, c'est des lieux merveilleux. Moi, j'avais beaucoup milité pour la cuisine de rue comme moteur d'intégration, ce que je considère toujours très juste d'ailleurs, et donc sur l'ensemble de la planète. Mais des gares et des aéroports, c'est quand même des endroits merveilleux. On réussit pas à tous les coups, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle des clients pendulaires. Alors, pendulaires, ça veut dire que ce sont des clients qui sont tenus au rythme de l'horloge. Donc le RER, le train, l'avion pour certains, avec toute l'anxiété du temps. Donc il faut répondre...
Qui rejoint le cuisinier.
Qui rejoint le cuisinier. Et ce qu'il faut absolument, c'est de créer un instant bonheur autour d'un café croissant, mais aussi être capable de créer un instant bonheur autour d'un bœuf bourguignon, parce que on est entre Paris et Amsterdam et on a un peu plus de temps, on a anticipé un petit peu, ou de faire un très bon sandwich. Et c'est toute la magie de ces lieux, d'avoir ces clients pendulaires d'une diversité incroyable, et qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses, même par moments, parce que dans certains quartiers, on a toutes les communautés qui sont présentes. Et c'est très intéressant de voir que, encore une fois, ce moteur du lien social de la cuisine est extrêmement fort.
Oui, est-ce que vous militez pour la cuisine de rue, de fait, sortir la cuisine des grands restaurants, peut-être la cuisine hors les murs? C'est quoi derrière que vous défendez?
Alors, ce que je défends derrière la cuisine de rue, c'était la capacité de l'intégration de la cuisine avec peu de moyens. Moi, je suis né à Ménilmontant, comme vous le savez. Et Ménilmontant, Belleville, 105 nationalités différentes quand même. Et ça n'a pas changé. Donc, on a vu arriver le Maghreb, on a vu arriver l'Afrique subsaharienne dans ce quartier, on a vu arriver l'Asie du Sud-Est, on a vu arriver le Pakistan, un tas de communautés comme ça, et à chaque fois qu'elles ont réussi leur intégration, elles l'ont réussi par l'épicerie, par la cuisine, par le food. Et ça pour moi, ce sont des moteurs intéressants, parce que c'est des moteurs d'apaisement. Moi, je me souviens que mon grand-père, quand il goûtait les premiers riz de ces gens qu'il appelait les Indochinois, il savait pas trop situer ça, mais il disait, c'est bon ce qu'ils font quand même, moi j'en ai acheté, alors on achetait ça à emporter, mais c'était bon. Donc ça permettait à des communautés de s'intégrer, d'exister, de montrer leur diversité, de ne pas cacher la diversité ou de ne pas siloter la diversité. C'est ça qui est intéressant. Quand on est arrivé dans nos quartiers, dans nos banlieues, le problème, il a été là, il a été qu'un mot, on n'a plus partagé. On n'a plus partagé le ramadan, on n'a plus partagé le shabbat, chacun a essayé d'imposer des choses, et c'était des phénomènes de silos. Mais à Belleville, on n'avait pas de problème. En tout ça, on vivait parfaitement bien ensemble et on savait surtout qui était qui.
Mais la cuisine de rue, c'est manger dans la rue aussi.
La cuisine de rue, c'est manger dans la rue parce que c'est une commodité. C'est une commodité, c'est manger sur place ou à emporter. C'était la commodité. Mais c'est pas tant cette cuisine de rue. Moi, c'était le premier moteur d'intégration, pas trop onéreux, pour créer sa première entreprise. Et quand on avait créé l'école de Blanquefort sur la street food à Blanquefort, eh bien, c'était notre première motivation, c'était de permettre à des personnes de monter leur premier business autour de la nourriture.
C'était les ateliers de cuisine nomade.
Oui, exactement, exactement. C'était les ateliers de cuisine nomade. On avait créé aussi, avec deux confrères cuisiniers, Michel Portos et Philippe Echebest, et puis des graffeurs, on avait créé Art Urbain et Cuisine Nomade. Je me souviens, c'était des moments exceptionnels où on montrait que l'art urbain, aussi l'art de la rue, crée du lien. C'est-à-dire que si vous... cet art qui peut paraître au départ un peu subversif, comme la cuisine de rue à Paris, apparaît un peu subversive, eh bien elle est intéressante parce qu'elle a un moteur d'intégration extrêmement fort. Et puis n'oublions pas que vous n'avez pas beaucoup de moyens de vous instruire en termes de cuisine. On parle des grands restaurants étoilés, formidable, c'est très très bien, et tant mieux que ça existe. Mais à un moment donné, faut préparer des personnes à apprécier de mieux en mieux la qualité d'un mets. Donc ça commence là, c'est-à-dire que quand vous mangez un très bon produit né de la cuisine de rue, ça peut vous amener plus tard à être gourmet. Je crois que le moteur de la cuisine de rue est encore une fois le moteur de la confiance.
C'est cette idée qui a prédéterminé l'événement que vous avez organisé deux fois d'ailleurs, en 2012 et en 2013, en partenariat avec une marque d'eau à bulles, on va le dire comme ça. Il y a eu un repas gastronomique dans le RER à Paris. États-Unis. Et puis vous avez reproduit la même chose un an plus tard, rue de Rivoli, à Paris, en distribuant des repas aux automobilistes qui étaient coincés dans les embouteillages.
Exactement. C'était la même idée, la même envie de... On parle souvent de fête de la gastronomie, on parlait beaucoup de... d'anecdotes comme ça, et qui restaient des anecdotes, parce que finalement cette fête de la gastronomie devenait une virgule comme ça dans le patrimoine culinaire français. Et je me disais, il faut faire des temps forts, et les temps forts, c'était d'aller vers ceux qui n'avaient pas une attractivité évidente pour la gastronomie. Et dans le métro, ça a été formidable, très compliqué techniquement à mettre en place, sur 3 stations.
Mais concrètement, vous donniez comme des petits bentos ?
Ah oui, on avait Non, c'était entrée, plat, dessert, sur 3 stations différentes. Alors si vous vouliez le menu complet, il fallait accepter d'aller jusqu'à la 3e station. 90 mètres d'hôtel, beaucoup de collaborateurs d'ailleurs de cuisine mode d'emploi. Tout le monde était en grande tenue et ça a fait le tour du monde, le fait que la gastronomie descende dans la rue et qu'elle touche, encore une fois, tout le monde et que tout le monde se rassemble. On a trop souvent assimilé la gastronomie uniquement aux chefs étoilés, aux grands chefs en toque et hors que...
Et au repas très cher.
Et au très repas bon, très cher. Très cher. Et donc,
hors que la gastronomie.
Ce qui n'est pas faux. Et hors que la gastronomie, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un collectif beaucoup plus important. C'est l'agriculture avec des terres vivantes et réfléchir sur la terre agricole. C'est tout l'aspect nutritionnel, plaisir, bien-être et santé. Ça, c'est la gastronomie, la protection environnementale de la pêche, etc. etc.
C'est ce qui
l'ensemble
fait que,
des métiers de bouche.
C'est ce qui fait, Thierry Marx, que vous ne vivez pas comme une contradiction. D'un côté, la cuisine de palace, et puis de l'autre, la conception sociale du cuisinier et de votre métier que
je
vous défendez.
Je l'entends souvent, on me dit, mais c'est facile de défendre le social quand on vit dans l'univers du luxe. Je dis, bah oui, mais moi, ce qui me semble évident, c'est que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. C'est ça qui est important. Et tant mieux qu'il y ait de l'artisanat de haut niveau en France, parce que tout le monde peut accéder finalement à cet artisanat et devenir un homme libre en pratiquant et en travaillant dans cet artisanat-là. Donc effectivement, il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de contradiction entre le fait de travailler dans un palace et dans un univers assez coûteux de fonctionnement pour le client qui vient dans nos maisons, et puis d'aller réfléchir sur une cuisine beaucoup plus accessible, etc. Mais encore une fois, l'échelle de valeur est la même. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez à un menu à 16 €, eh bien, vous faites attention au sourcing du produit, quel produit vous allez acheter, est-ce qu'il est environnementalement responsable, est-ce qu'il répond à une démarche haute qualité environnementale dans un circuit court, tout un tas de choses. Est-ce qu'il a un impact social et environnemental ? Vous avez la même réflexion ?
Toute cette réflexion, c'est finalement le dernier engagement qui est le vôtre, qui est l'engagement qu'on pourrait qualifier plus politique, puisque vous militez pour que tout le monde puisse manger de la bonne qualité. Ce sera le sujet de notre dernière émission demain.
Avec plaisir.
Alors, à demain. Vous trouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Thierry Marx. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Amandine Grevoz, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.